sanitaire. Donc voilà, par rapport aux propositions de Monseigneur Dubost, si vous avez des remarques, des résonances, des ajouts, la parole vous est proposée. Donc peut-être qui serait le premier à se
Bon, moi, je
lancer?
veux bien, Jacques Blacard.
Oui.
J'ai noté deux petites choses. D'abord, un grand merci à Michel, hein, parce que de fait, c'est. Voilà, c'est. Merci. Et de fait, on sera heureux d'avoir la substantifique moelle de. Voilà, tu n'es pas obligé de tout nous remettre, mais voilà, tu as donné quand même des belles idées. Enfin, merci beaucoup. Moi, j'ai deux petites choses. Tu l'as souligné à un moment donné, mais de fait, ne pas oublier l'immense majorité des sportifs amateurs. Dans et hors association. Voilà, c'est la quinzaine de papys qui le dimanche matin ne vont pas à la messe, mais vont faire du vélo ensemble. Voilà, une deuxième chose aussi, on aura à travailler, c'est sport collectif et individuel. Je sais pas, moi aujourd'hui je fais du sport individuel, mais je rends grâce pour le sport collectif. Tout ce que m'a apporté le sport collectif, quoi. Voilà, c'est le travail d'équipe, hein, avec tout ce que ça veut dire derrière. Et puis un deuxième point, bon, mon frère qui était dans le sport à fond me disait, voilà, les gens disent, ouais, dans le sport, il y a la violence, l'argent, la drogue, mais il dit, le sport n'est que l'émanation de ce qu'est la société. Quand la société, il y a du dopage, quand dans la société, pardon, il y a de la drogue, beaucoup de violence, voilà, de la corruption, de l'argent, le sport les milieux sportifs vont être touchés par toute la société. Donc n'inversons pas les choses. Michel, tu l'as rappelé, le sport, c'est aussi. C'est un lieu de société, quoi. Voilà. Voilà, c'était pour lancer un peu la discussion.
Merci pour ce lancement stimulant. Voilà, si d'autres résonances se font jour par rapport à vos préoccupations sur le terrain dans chaque diocèse.
Puisque Jacques a parlé, je ne voudrais pas qu'il parle non plus, hein, mais d'abord, à nouveau, merci Michel. Hein, bon, je ne veux pas toujours trop dire de bien de Michel parce que je n'arrête pas, alors on dirait que je radote. En tout cas, merci pour le travail aussi parce que derrière ce qu'il me propose, eh ben, il y a un vrai gros travail. Voilà, c'est un bosseur Michel, donc il y a vraiment de quoi réfléchir. Ce n'est pas en dilettante qui fait ça. D'ailleurs, ça veut dire que c'est un peu, ça rejoint d'ailleurs le travail des sportifs qui travaillent de haut niveau parfois. Moi, mon point, le point sur lequel j'ai insisté à chaque fois que j'étais aux différentes réunions et qui me tient très très à cœur, c'est la question du handicap et du handisport. Pour moi, il y a une vraie, plus qu'une pastorale à destination des personnes handicapées, il y a une spécificité. Hein, du handisport, dans le rapport au corps, dans le rapport à l'unité de la personne, dans le rapport à la performance, mais la performance qui fait exister la personne d'une manière nouvelle, dans la dimension de la fraternité. Voilà, moi, à titre personnel, au moment où je devais être amputé de la jambe gauche, hein, comme ça a été le cas, comme ça devait être le cas, j'ai été très très soutenu par l'équipe handisport des Invalides, en particulier voilà, l'équipe militaire, et j'avoue que j'ai découvert quelque chose dans ce milieu handisport qui m'a bouleversé. Voilà. Donc, je trouve que souvent on parle de vulnérabilité dans l'Église. Et là, on a cette importance dans la société de pouvoir dire bah, la vulnérabilité, c'est une chance, c'est un lieu de croissance, c'est un lieu où justement l'homme dit quelque chose qui peut être en contradiction parfois avec la société autour du fait que nous, on n'est pas dans le sens de l'homme augmenté. Au contraire, on est dans le sens de l'homme magnifié dans ses vulnérabilités, parfois dans ses blessures, dans ses difficultés. Et je trouve qu'on a une vraie parole à apporter dans ce domaine-là, voilà, qui a été aussi suggéré par Michel. Donc voilà, c'est mon point, le point sur lequel je voudrais parfois insister d'une manière particulière, parce qu'il y a une spécificité dans la société de cette dimension. parfois de faiblesse ou de vulnérabilité, qui dit beaucoup, beaucoup de la force de la personne humaine.
Peut-être deux commentaires avant de transmettre la parole. Donc, Monseigneur Gobillard, donc Santiago, le dicasteur du Vatican, nous a mentionné l'idée qu'à la fin de l'année 2021, il y aurait une conférence internationale sur le thème de la vulnérabilité. Donc peut-être on prendra date sur cette rencontre au niveau du Vatican. Et puis, à l'adresse peut-être par rapport à la journée du 5 octobre, hein, je pense que ça a été pensé, mais de rappeler qu'en 2024, il y a deux événements qui sont un peu dissociés. C'est d'une part les Jeux Olympiques tels qu'on les connaît, mais également les Jeux Paralympiques qui auront lieu quelques semaines après, et que dans l'organisation, effectivement, une place peut être donnée sur cette dimension du handisport. Donc, merci pour ces remarques.
Peut-être que Christine pourrait réagir, elle s'occupe justement de ces questions à la conférence des évêques.
Merci Alain. Je remercie beaucoup Emmanuel Gobillard qui vient d'intervenir. C'est une dimension sur laquelle, effectivement, nous, dans la pastorale des personnes handicapées, sur laquelle on ne s'est pas encore beaucoup, beaucoup arrêté au niveau du sport. Et donc, c'est une vraie interpellation pour moi-même et le conseil avec lequel je travaille. On est en train de lancer une toute petite enquête là, pour savoir un peu dans les pastorales diocésaines quels sont les liens avec des personnes sportives ayant un handicap ou quels sont les apports spécifiques justement que peuvent amener les personnes pratiquant un sport avec handicap au sein de notre pastorale. Voilà, je peux que me réjouir de ce que nous sommes en train d'échanger et c'est pour moi tout un chantier qui se couvre.
Merci. Donc au plaisir de se rencontrer pour développer cette affaire. Autre remarque,
résonance. Mais moi, je m'interroge toujours, c'est Alain à nouveau, je m'interroge toujours pourquoi c'est séparé en deux, les Jeux Olympiques, pourquoi il n'y a pas une seule affaire, voilà.
Alors, je vais faire une réponse rapide, hein, c'est pourquoi pas. En tout cas, c'est l'existant. C'est l'existant et peut-être ça peut être l'occasion, enfin, en tout cas d'en discuter le 5 octobre, hein, sur cette apparente dissociation, en considérant aussi que le monde du handisport est aussi un monde fragmenté, hein, puisqu'il y a tellement de compétitions qui ont lieu, c'est que ça interpelle aussi la définition du handicap. Hein, mais Alain, on retient ta remarque, hein, sur cette dissociation et puis ça nous donnera l'occasion dans quelques temps peut-être de revenir un petit peu sur la genèse hein, de ces Jeux paralympiques. Alors peut-être Emmanuel Gobillard en a parlé indirectement puisqu'à l'origine hein, donc ça s'est créé à la fin de la Seconde Guerre mondiale grâce aux Anglais pour quelque part s'occuper hein, de ce qu'on appelait, alors, on disait plutôt ça de la Première Guerre mondiale, mais ce qu'on appelait les gueules cassées hein, à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, mais de rappeler que les Jeux paralympiques ont quelque chose aussi à voir avec l'extrême sociétal que constitue la guerre. Mais on garde ta question, Alain. On va peut-être pas y répondre ce soir, mais on la garde.
Je peux prendre la parole?
Oui.
Il y a un élément qui me paraît intéressant, important, c'est la spiritualité sportive qu'on pourrait mettre en valeur. On en avait parlé au congrès à Orsine en octobre. Il y a eu des recherches qui ont commencé, des travaux sur voilà, montrer qu'il y a une spiritualité présente dans chaque sport et dans le sport en général. Et donc, il y a un prêtre qui était présent du diocèse de Meaux qui a écrit un petit livre sur les spiritualités du football. Gilles Lecoq avait fait sur le rugby. Moi, j'ai fait sur le cyclisme. Donc, voilà. Et je pense que c'est un service qu'on peut rendre aux sportifs aussi, au monde du sport, de mettre en valeur les valeurs spirituelles qu'on présente dans l'entraînement, la compétition. Pour justement élever un peu voilà, l'esprit et l'homme vers et donc faire du sport ce chemin vers Dieu aussi qu'il peut être. Voilà, et donc ça peut, on peut continuer encore à travailler là-dessus en vue aussi des Jeux Olympiques. Hein.
Voilà, merci pour cette proposition et puis cet élan donc, que l'on va suivre avec grand plaisir.
Il y a Cédric et Pascal là, qui ont demandé la parole, allez-y. Cédric.
Oui, bonjour à tous. Je me permets de rebondir sur la question du handicap lié au sport, évidemment, pour vous faire part d'une expérimentation qui est la nôtre au sein d'Uxelles. Puisqu'en fait, vous savez que au sein des établissements catholiques d'enseignement, on a des classes ULIS, hein, ce sont des unités localisées pour l'inclusion scolaire. En fait, la proposition que nous faisons, nous, au niveau d'Uxelles, c'est de mettre en place des rencontres sportives, voire des championnats. On est vraiment en train de discuter de cette question-là. Mais ce seraient des épreuves qui regrouperaient des élèves, je dirais des élèves, avec des élèves à besoins éducatifs particuliers. Et donc, de ne pas scinder, justement, les épreuves sportives, mais de permettre à ces jeunes de vivre ensemble une rencontre sportive, un jeu. Alors, classiquement, on les fait autour, évidemment, de pratiques sportives par équipe plutôt qu'individuelles, puisque le but, c'est de vivre quelque chose. Et simplement, vivre la rencontre sportive comme ça, entre personnes ayant des particularités. Voilà, donc proposition que nous ferons, qu'on souhaite mener à horizon 2023-2024 pour créer des rencontres ou des championnats au niveau national, évidemment, de la France. Voilà, je voulais vous faire ce petit éclairage.
Merci. Merci pour cette lumière.
Pascal.
Oui, j'y vais. Je vous préviens tout de suite, ça ne va pas forcément être très clair ce que j'ai envie de dire, mais voilà, Monseigneur Dubost a commencé son topo en se demandant de quoi parle-t-on quand on parle de sport. Et puis ensuite, le premier à avoir rebondi, c'est Monseigneur Blacard qui distinguait sport collectif, sport individuel, sport institutionnel, sport informel, voilà. Moi, de mon côté, je suis quand même frappé par la manière dont on a pu passer en quelques décennies d'un sport, d'une culture sportive plutôt, qui valorisait l'effort et le travail, avec le côté un peu bourrin, quoi, voilà, à une culture sportive de la glisse, du fun, de l'esthétisme. Bon, je fais dans la caricature, hein, je sais bien. Hein. La question que je me pose est la suivante. Est-ce qu'on peut raisonnablement continuer à parler du sport au singulier ? Et est-ce que dans une réflexion chrétienne sur le sport et dans la mise en œuvre, la poursuite de la mise en œuvre d'une pastorale du sport, est-ce qu'il n'y a pas aussi à réfléchir, non pas sur les bons et les mauvais sports, ça serait pathétique ça, mais quand même sur le fait de dire que peut-être que l'anthropologie sous-jacente n'est pas forcément la même dans tous les cas de figure, peut-être que le rapport au corps, le rapport à l'autre ne sont pas forcément les mêmes dans tous les cas de figure. Et peut-être qu'il y a des usages du sport plus féconds que d'autres. Alors, il ne faut pas que ça tombe dans le moralisme, il ne faut pas que ça tombe… C'est compliqué, hein. Mais c'est compliqué, et puis j'ai du mal à l'exprimer clairement. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un sujet… Enfin, pour le dire autrement, je crois qu'on ferait fausse route à se contenter de parler tout le temps du sport comme ça, comme si c'était un en-soi absolu.
Oui, très bien, très bien. Allez-y, Pascal. Allez-y, vous.
Ah, okay.
Creusez un peu. Non, non, mais c'est très intéressant, au contraire, mais creusez vous-même un peu.
Oui.
Voilà, mais non, merci.
À mes nombreux moments perdus, d'accord.
Oui. Merci, en tout cas.
Alors, je vais tendre deux perches à Pascal, hein, à ces moments perdus, de repérer que pour 2024, il y a deux sports qui sont invités. Ces sports, on les appelle, entre guillemets, le skateboard et le breakdance. Et donc, j'invite l'ancien secrétaire général de l'enseignement catholique de se souvenir qu'à une époque, le skateboard et le breakdance n'étaient pas forcément considérés comme des sports, mais comme des pratiques déviantes. Et donc, effectivement, de garder cette piste, hein, pour rappeler que, en tout cas, la notion de sport mérite de s'intéresser à l'évolution d'une société et de voir comment une activité physique peut être quelque part exclue hein, de certaines enceintes, dont les enceintes scolaires, et d'autres, au contraire, vont devenir, hein, quelque part, les reines, hein, les reines de la reine. Donc voilà, Pascal, quelques pistes, hein, si on est encouragé par Mgr Blacard.
Il y a des fois où on se dit qu'on aura mieux fait de se taire.
Non, non, c'est...
Il y a Xavier Narcisse qui, voilà. qui a levé la main. Xavier.
Oui, bonjour à tous.
Xavier Narcisse.
Oui. Je vous remercie de...
Peut-être pouvez-vous redire un peu, je ne suis pas sûr que tout le monde vous connaisse, peut-être redire oui. un peu à quel titre vous êtes là. Voilà.
Oui, oui, merci. Donc moi, je suis étudiant en deuxième année de théologie à Lucco d'Angers. Donc c'est là que j'ai rencontré le père Alain Paillard. Ben voilà, moi je suis aussi un fan de sport, un passionné depuis tout petit, donc beaucoup de, en particulier de foot, voilà, ou qui a été aussi un lieu très important dans ma foi et voilà, dans ma rencontre avec le Seigneur à l'âge de 18 ans, 19 ans, donc qui est passé par la Bible, par la parole de Dieu, et qui m'a rejoint vraiment dans le sport profondément, et donne un côté concret, voilà. Incarné de la foi, donc qui est aussi un lieu d'évangélisation que j'ai très à cœur aujourd'hui. Et donc je fais partie donc du coup de l'équipe aussi Foot for Jesus avec Sœur Christiana, Paul Emmanuel, donc le Rides, Arnaud Boutéon, un ancien footballeur professionnel Pedro Enrique Bueno aussi, un Brésilien, et un prêtre de la communauté Saint-Martin, dont Jérôme aussi qui est avec nous dans l'équipe. Et donc voilà, c'est un peu le projet qu'on a à cœur, voilà, d'amener le Christ à travers le sport et en particulier le foot. Donc il porte ses fruits avec déjà une première édition et voilà, une demande de un jeune qui chemine vers le baptême assez récemment. Mais une grande joie de continuer, très encourageant. Mais donc voilà, et aussi de. Et on s'est posé la question aussi lors de un petit rassemblement qu'on avait fait avec l'équipe d'organisation. Et voilà, ce qui rapproche, en fait, je trouve, ce pourquoi on pourrait axer aussi, avec le rapport à la foi, sur quelque chose de la gratuité aussi du sport. Voilà, et ça me fait penser aussi au pape François qui rappelait dans ses messages, voilà, de garder un esprit d'amateur. Et voilà, et comme vous avez, certains d'entre vous ont dit aussi, l'esprit d'amateur du sport, voilà, de tous les gens qui sont amateurs, donc, en fait, voilà, qui ne sont pas forcément professionnels, mais je trouve ce qui rapproche vraiment ça aussi de la foi chrétienne, bah, c'est cette notion de gratuité. Voilà, le sport, c'est pas essentiel, ça fait pas, c'est pas, voilà, c'est pas essentiel à la vie, mais quelque chose du divertissement, de l'amusement, mais un don de soi, quelque chose de gratuit, je trouve qui est intéressant à creuser. Voilà. Et aussi le fait, voilà, ma question, c'était, voilà, en tant que jeune et ayant à cœur d'apporter le Christ voilà, aux jeunes et à travers le sport, voilà, comment c'est vrai que parfois l'Église aujourd'hui, bon, peut paraître assez loin, hein, quand les jeunes un peu loin de la foi ou même qui sont un peu dans l'Église, voilà, comment l'Église investit le sport, et voilà, à travers les réunions comme ça on se rend compte un peu que quand même ça travaille. Donc, voilà, c'est comment, en fait, bah, concrètement, par exemple, c'était très pragmatique aussi, comment l'Église, voilà, se rend présente, par exemple, dans des JO, par exemple, en 2024. Concrètement, voilà, comment, c'est un peu ma question aussi, qui s'adresse à tout le monde, hein, mais comment, voilà, concrètement, montrer et montrer que l'Église est présente dans des rassemblements comme ça, et, outre les sportifs qui sont croyants et qui essaient de témoigner aussi, mais est-ce qu'il y aurait pas des liens aussi, des ponts aussi à faire avec ces sportifs-là, qui sont déjà, hein, mais voilà, ça a causé. Merci.
Merci pour la question. Donc, s'il y en a qui ont des réponses, vous pouvez, mais en tout cas, Xavier, on garde la question sur le feu, et on aura l'occasion de revenir vous voir.
On est sur le terrain, et le match est commencé.
Voilà.
Voilà. On est sur le terrain, puisque la réunion d'aujourd'hui montre que beaucoup sont sur le terrain. Et maintenant, en avant.
En avant Guingamp, dirait les Bretons.
Voilà.
Monseigneur Gobillard a levé la main.
Oui, c'était une réaction par rapport à ce que disait Pascal. Voilà. Merci en tout cas pour ce que vient de dire Xavier. Moi, je suis très touché ouais, par cette dimension pastorale, hein, c'est sûr. Moi, j'ai un peu l'esprit de contradiction. J'ai beaucoup aimé hein, ce qu'a dit Pascal. Et du coup, je me pose quand même la question, qu'est-ce qu'il y a de commun à tout ça? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de commun à tous les sports? Pourquoi on parle du sport? Il y a des choses qui sont communes à tous les sports. Et aussi, entre sport amateur, sport professionnel, pas nécessairement dans les grandes valeurs qu'on développe souvent, fraternité, tout ça, mais il me semble, enfin, je ne sais pas, mais c'est une question que je pose, dans les sports que j'ai pratiqués, où j'étais licencié, hein, il y a le foot, il y a le tennis, il y a d'autres sports, enfin bon, il m'a semblé à chaque fois qu'il y avait la dimension de confiance, c'est-à-dire qu'à un moment, pour gagner, il faut avoir confiance dans l'équipe, il faut être dans une dynamique positive. Et en même temps, il faut être humble, ce qui peut paraître comme parfois contradictoire. C'est-à-dire la confiance de celui qui sait qu'il peut gagner et en même temps l'humilité profonde. C'est-à-dire que pour moi, c'est très fort, par exemple, en tennis. En tennis, à partir du moment où tu crois que tu vas gagner, tu perds. Et en même temps, il faut que tu aies confiance et que tu crois que tu vas gagner. Alors, il y a une espèce de contradiction qui est très forte, qui est très subtile et qui rejoint des vraies valeurs évangéliques. C'est-à-dire que à un moment, la question de la confiance dans l'équipe, de la confiance dans un projet, dans une vision, dans ce vers quoi je veux aller, et en même temps l'humilité profonde, d'ailleurs qu'on retrouve spécifiquement dans la question du handisport, hein, justement, il y a un rapport entre les deux qu'on retrouve dans le sport professionnel. C'est-à-dire que par la préparation. Tout à l'heure, Pascal a parlé de plein de choses, mais il y avait presque l'oubli de la préparation. Moi, je pratique actuellement un sport où il faut parfois des jours, en tout cas immédiatement, au moins 2 heures de préparation pour 30 secondes de performance. 30 secondes. Voilà. Et donc, l'humilité, c'est aussi de se dire une énorme préparation pour un résultat qui est tout petit. Enfin, voilà. Donc, j'aime beaucoup le rapport entre humilité et confiance, entre « il faut y aller », et en même temps, je respecte l'autre, je respecte l'équipe, je respecte. Enfin voilà, c'est pour moi, il y a des choses qui sont très subtiles, mais qui font qu'il y a quelque chose de commun à tous les sports. Quoi.
Merci. Je transmets la parole à Jean-Marie Turgis, donc, qui est médecin du sport, entre autres, mais il va peut-être compléter la présentation. Donc Jean-Marie.
Bonjour à tous. D'abord, je remercie Gilles de m'avoir invité à votre réunion de ce soir. Effectivement, je suis le médecin référent du comité départemental olympique du Val-d'Oise, donc directement concerné par les Jeux olympiques de Paris. Et je participe à une commission sur le volontariat, organiser le volontariat. Et puis, comme l'a dit fort bien Gilles, je suis le président du cercle Pierre de Coubertin du Val-d'Oise. Donc, vous voyez, je suis très impliqué après pratiquement 60 années, pardon, d'activités sportives, y compris en compétition. Je voudrais revenir 2 secondes sur les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Il faut savoir que ça a été un éternel problème, comme l'a très bien dit Gilles suite à la dernière guerre. Il a fallu incorporer progressivement le handisport. Et dans les Jeux olympiques, ça s'est fait très progressivement parce que effectivement, les Jeux olympiques traditionnels au début voyaient d'un œil un petit peu particulier, disons, l'arrivée des sportifs en fauteuil en particulier et autres handicapés. Et puis finalement, l'intégration se fait beaucoup mieux qu'on pourrait croire. Et ne serait-ce que aux dernières Olympiades, eh bien, la dernière compétition a été une compétition d'athlètes en fauteuil. Donc vous voyez, on est en train de rapprocher au plus vite les deux. Et ce rapprochement est tellement important que pour les Jeux de Paris, eh bien, les deux drapeaux sont toujours accolés l'un à l'autre, les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques, pour bien montrer que c'est la même entité, que pour des raisons matérielles, c'est difficile pour certaines compétitions d'accéder en fauteuil ou à d'autres compétitions, c'est très difficile techniquement, mais l'idée profonde des Jeux olympiques, c'est, entre guillemets, d'absorber les Jeux paralympiques. Je tiens à vous dire que, ayant été un moment médecin de la Fédération Handisport, eh bien, le principe de la Fédération Handisport, entre guillemets, c'est le suicide. C'est-à-dire qu'elle n'aura réussi son action réelle au niveau handisport que quand elle aura disparu. C'est-à-dire que chacun des sports sera intégré dans chacune des fédérations. les athlètes en fauteuil qui font de la piste, eh bien, seront considérés comme des athlètes de plein pied, si vous me permettez l'expression, mais des athlètes entiers au niveau de la Fédération d'athlétisme. Pareil pour le football en fauteuil, pour le basket en fauteuil, eh bien, l'incorporation systématique, c'est le but de la Fédération Handisport. Vous me direz, il y a des sports, c'est beaucoup plus compliqué, ça ne peut peut-être pas se faire aussi facilement, mais le but pour tout le monde, c'est cette intégration. En tenant compte, comme ça a été fort bien dit, des particularités de chacun des sports, parce qu'on ne peut pas intégrer aussi facilement, techniquement partout. Mais c'est le but avoué, et ça me semble tout à fait nécessaire. Je voudrais revenir sur l'humilité du sportif. L'humilité du sportif, c'est très important. C'est, je crois, même la base de toute pratique sportive. On ne peut pas concevoir le sport en dehors de l'humilité. Je crois que c'est la déviance principale de l'absence d'humilité dans le sport. Eh bien, c'est que ça amène à la triche. Et la triche, ça veut dire le dopage et toutes les déviances qu'il peut y avoir. Et là, je voudrais, en tant que président d'un cercle Pierre de Coubertin, vous rappeler les cinq mots que Pierre de Coubertin professait partout. Le mot amitié. Moi, je crois qu'on ne peut pas concevoir le sport sans amitié. Que l'amitié est la base de tout. Que les Jeux Olympiques, puisqu'il est surtout question de cela tout de suite, mais toutes les autres pratiques sportives, c'est pareil, c'est repose sur l'amitié. On ne peut pas concevoir un sport sans amitié. Amitié pour ses partenaires, amitié pour l'adversaire, parce qu'on n'est pas là pour faire la guerre, parce qu'on est là pour créer des liens d'amitié. Il suffit de voir des joueurs de football quand ils sortent du terrain, eh bien, ils font une aide d'honneur à l'adversaire, qu'ils aient gagné, qu'ils aient perdu. On se félicite. En athlétisme, qui a été mon sport de base, eh bien, l'humilité fait qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera devant soi, qu'il y aura toujours une barre, comme ça a été très bien dit tout à l'heure, qui sera à 6 mètres et qu'on ne passera jamais, et qu'il faudra accepter un jour ou l'autre qu'on ne la passera pas. C'est l'amitié pour autrui. L'autre mot important pour Pierre de Coubertin, c'est le mot respect. Le mot respect, c'est respect de l'adversaire, c'est le respect aussi des autres sportifs qui pratiquent avec nous-mêmes, le respect à l'intérieur même de l'équipe. Être capable de passer la balle à quelqu'un pour qu'il mette le but à notre place, qu'il marque un essai à notre place. Le respect des règles, bien entendu, mais ça indique cette nécessité d'éduquer les jeunes au respect des règles, et c'est l'intérêt du sport pour les enfants et les adolescents, parce que c'est le début de l'intégration à notre rôle de citoyen, à notre société, et ça, je crois que c'est très important que le sport nous apporte ça, le respect des règles. Autre chose que Pierre de Coubertin professait énormément, c'était le dépassement de soi. On cherche l'être humain depuis qu'il est sur Terre, et là pour se dépasser lui-même. Sinon, on en serait resté à Cro-Magnon et peut-être même avant. Donc, le dépassement de soi, c'est très important. C'est à la base de toute activité physique et sportive. C'est-à-dire que quand on arrive sur une piste, quand on arrive sur un terrain de foot, quand on arrive en vélo, eh bien, ça a été très bien dit tout à l'heure pour le Ventoux. Eh bien, si on est en bas du Ventoux, c'est pour arriver en haut, c'est pour se dépasser. Peut-être renoncer en cours de route, c'est l'humilité, c'est la modestie, mais toujours. Et le dépassement de soi amène au quatrième mot tout à fait important pour Pierre de Coubertin, qui est l'excellence. Et je crois que c'est le principe du sport. J'allais dire en ce moment, je suis en train de me replancher sur Teilhard de Chardin. N'est-ce pas aussi une forme de point oméga que l'excellence sportive qui, comme l'a dit Pierre de Coubertin, j'ai étudié la matière et j'ai découvert l'esprit. Et je suis convaincu que le sport, à travers la matière du travail sportif, comme l'a très bien dit Monseigneur Dubos tout à l'heure, l'entraînement, c'est travailler son corps, mais pour libérer l'esprit, pour le faire évoluer dans le sens, entre autres, pour atteindre ce point oméga de l'esprit, pour découvrir l'esprit qui nous amènera très loin, très haut et très fort. Donc, vous voyez, quand je vous dis très loin, très haut, très fort, on retrouve les maximes de Pierre de Coubertin que je voudrais rappeler, mais quand il dit très haut, c'est pas très haut en son hauteur, c'est très haut pour que l'esprit s'élève. C'était ça le principe de Coubertin, c'est pas très haut, la barre plus haute, non, c'est que l'esprit s'élève grâce au corps. Et ça, je crois que c'est très... Et dernière chose que disait Pierre de Coubertin, c'était l'internationalisme. c'est-à-dire ne pas rester dans notre petit village, dans notre cloche-mère, dans nos petites choses, mais savoir qu'il y a autre chose. Je suis ravi de voir que ici, parmi nous, nous avons un ami italien. L'Église est là pour s'internationaliser. Et quand on parle de sport, on s'inscrit directement dans l'internationalisation de l'Église. Et je crois que c'est très important quand notre pape nous rappelle tout ça, parce que c'est effectivement, si on a une petite place, eh bien, c'est là qu'on peut l'avoir. Et pour conclure, eh bien, pour avoir beaucoup pratiqué le sport, je voudrais dire que une chose qui est très importante, c'est que nous, catholiques, c'est que nous, chrétiens, eh bien, on a valeur d'exemple. On a valeur d'exemple pour toutes choses dans la société, dans nos professions, dans ce que nous sommes, dans ce que nous vivons. Mais on a aussi valeur d'exemple en sport. Et à partir du moment où on pratique un sport, eh bien, quelque part, nos convictions doivent être là pour que nous ayons cette valeur d'exemple, qu'on puisse dire, toi, tu es chrétien, toi, tu es catholique, eh bien, on te fait confiance pour respecter les principes fondamentaux de notre religion et telle que nous la vivons. Et je crois que c'est là où les chrétiens ont un rôle important à l'intérieur du sport, c'est cette valeur d'exemple. Et l'exemplarité est à la base de tout. Et quand on s'aperçoit qu'il y a cette exemplarité, eh bien, on s'aperçoit qu'on crée la liberté, on crée les qualités supérieures de l'être humain peuvent s'exprimer et il y a la joie, il y a l'amitié, tout est là. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Merci à Jean-Marie Turgis pour nous avoir partagé ses convictions en lien avec Pierre de Coubertin. Alors, je transmets la parole à Luc Champagne ou Arnaud Boutéon comme...
Oui, je vais bien intervenir. Michel, tout à l'heure dans ton propos et ton deuxième propos, tu mettais en avant la question de la paix et du développement. C'est donc une dimension sociale et politique que tu donnes aussi au sport. Et je m'interrogeais sur le travail qui est fait aussi bien par le groupe international au niveau du Vatican que ce qu'on essaye de mettre en place ici en France sur cette dimension sociale et politique. Qu'est-ce que nous, en tant qu'Église, nous avons à dire aussi sur cette dimension, notamment quand il y a un dilemme? Et je prends comme exemple de dilemme le positionnement que doivent avoir aujourd'hui le monde du sport vis-à-vis des mondiaux de foot au Qatar, avec tout le malheur qui est arrivé à tous les gens qui ont construit les stades et les morts qui ont eu lieu pour cette construction. Et je me dis, à quel moment, dans notre travail, nous aurons aussi une parole politique sur ces dilemmes que chaque fois on rencontre. Alors, c'est pour ça a été le moment de l'apartheid, ça a été le moment des crises autour du terrorisme, c'est cette question autour des mondiaux du foot. Je pense que là, on a aussi une responsabilité qui donne sens au sport. Si on n'a pas une parole politique sur les événements de la société, les événements du monde, je pense qu'on passera à côté d'une part de notre responsabilité. Merci.
Voilà, si Monseigneur Dubost veut réagir.
Il semblerait plutôt que c'est notre frère du Vatican qui peut répondre, puisqu'il sait probablement mieux que moi ce qui se passe sur ces questions-là.
Santiago, vous êtes toujours avec nous?
Oui, il était là il n'y a pas longtemps.
Oui, oui.
Est-ce que vous pouvez répéter la demande?
Oui, Santiago, allez-y.
Il demande à ce qu'on redonne la question.
Pardon.
En parlant doucement, Luc, je pense qu'il peut comprendre.
D'accord. Allez-y. Alors, Santiago, je posais la question sur le plan politique quand il y a une interrogation sur des événements qui concernent le sport. Comme je prends l'exemple des mondiaux du foot au Qatar, où il y a à la fois la question du sport, mais il y a aussi les droits de l'homme qui ont été bafoués dans la construction des stades pour cet événement. Et donc, est-ce que dans le travail qui va être fait aussi bien à Rome qu'en France, grâce au JO, est-ce qu'à un moment, il y aura une parole politique de la part de l'Église sur ce dilemme, cette interrogation qu'il y a quand il y a justement opposition entre les valeurs du sport et les droits de l'homme qui sont bafoués? Est-ce que...
Et je ne sais pas, est-ce que je peux parler en anglais ou italien et...
Italien, très bien.
Ah ben, par... Oui. Oui. Allora, se ho capito una domanda sull'aspetto, sulla problematica della costruzione degli stadi e anche, per esempio, del mondiale, cioè l'aspetto politico che c'è dietro a questi eventi.
On traduit.
Oui, oui, vas-y, Alain.
Donc, il a bien compris la question du rapport entre la question de politique autour de la construction des stades et les droits de l'homme bafoués et puis les valeurs du sport.
Et donc, la Chiesa est molto chiara in questo aspetto, ma non c'è bisogno di manifestarsi per una questione che riguarda lo sport, perché. Che è una questione che riguarda la dottrina sociale della Chiesa.
Allora, il dice che c'è una questione où l'Église est très claire e che il s'agit, c'est une question qui relève de la doctrine sociale de l'Église.
Comunque, per non fare un discorso troppo lungo, direi che più di una volta i papi si sono manifestati a questo riguardo, magari anche con delle parole diplomatiche. Non facendo perché appunto anche c'è dietro la problematica di non creare problemi di natura internazionale, no? Diplomatica. Però allora, si sono manifestati anche. Senso.
Donc, il dit che les papes se sont manifestés à plusieurs de assez... relativement souvent, en tout cas, mais ils l'ont fait plutôt par le canal diplomatique pour ne pas créer d'incidents diplomatiques. Voilà.
Et forse sono i rappresentanti della Santa Sede in questi paesi che manifestano anche la problematica ai rappresentanti dei governi o delle istituzioni.
Donc les représentants du Vatican rencontrent les représentants gouvernementaux pour faire leurs observations sur des questions comme sur les droits de l'homme.
E poi ci sono alcune situazioni che purtroppo vanno al di là dell'aspetto della Chiesa, cioè dal punto di vista della Chiesa. Il caso concreto del Mondiale di Calcio è una cosa che è lo stesso organismo della FIFA che deve rifiutare a organizzare un mondiale se non si rispettano i diritti umani.
Donc, par exemple, quand ça va au-delà, comme les mondiaux du foot, ce serait plutôt à la FIFA de réagir. Voilà.
Perché è una cosa che va contro il senso e la natura dello sport.
Parce que c'est aussi quelque chose qui va contre la nature du sport.
E anche lì i singoli cristiani, gli organismi, i paesi devono alzare la voce e anche la Chiesa ovviamente e dire questo non va bene e bisogna fare le cose in un modo diverso.
Donc les laïcs du lieu, les églises locales, etc. peuvent aussi faire entendre leur voix pour dire que ça va pas.
Merci Santiago pour ces précisions. Alors avant de donner la parole à Sœur Christiania, je vais transmettre la parole à Arnaud Goutéon qui a levé la main depuis quelque temps.
Deux petits mots. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec la question valeur porte, etc. Il y a beaucoup d'autres choses qui vont mobiliser les principes et les vertus que l'on retrouve dans le sport. Donc souvent il y a une forme de tarte à la crème à parler de valeurs du sport. Et il me semble qu'il faut plus peut-être parler de principes et de règles. Et j'ai beaucoup aimé quand Pascal Balmont tout à l'heure a évoqué la diversité des sports, c'est-à-dire que tous les sports vont avec l'intelligence de la règle, va venir convoquer la personne humaine. Et donc, on est vraiment sur des enjeux anthropologiques et qui va pouvoir mobiliser des vertus ou bien des vices selon la tension que le sport va venir convoquer. Donc, je sais qu'en discutant pas mal avec des grands responsables du sport, ils me disent, mais on trouve que en parlant tout le temps des valeurs du sport, finalement, on appauvrit la richesse de la réalité sportive. Et la vraie richesse, c'est la personne humaine, parce qu'elle sera travaillée, elle sera labourée de façon très profonde. Et la deuxième chose que je voulais vous partager, c'est que le sport, quand on pratique le sport, et pas uniquement sur canapé, parce qu'il y a plusieurs modes de pratique sportive, on évoquait tout à l'heure les paris hippiques et toutes les formes aussi d'addiction par procuration, mais la vraie pratique du sport, finalement, va nous permettre de nous exposer souvent en vérité, de faire tomber les masques. Et dans la société aujourd'hui, on voit que tout le monde joue un jeu, finalement, se cache. Et dans la fraternité sportive, on accède à l'altérité de l'autre sans tous les vernis mondains ou toutes les mises en scène derrière lesquelles on se cache. Et ce que j'observe aussi, c'est que souvent dans l'intimité des vestiaires et dans la fraternité sportive, parce que cette personne humaine, dans la souffrance, dans la convocation du corps, de l'âme, de l'esprit, eh bien, très vite, la transcendance peut arriver. Et donc, on trouve ça souvent dans les forces armées et dans le sport, d'ailleurs, parce que la personne humaine est convoquée corps, âme, esprit. Eh bien, le fait religieux va être accepté. Et donc, on pourra parler beaucoup plus facilement de Dieu, peut-être qu'en entreprise ou autour de nous. Je trouve que le sport est un lieu, et tous les sportifs, même professionnels, nous le disent, le vestiaire est une sorte aujourd'hui de zone franche dans laquelle on partage notre foi. Et il y a un écuménisme très, très, j'allais dire, très partagé, où il est même presque rare d'être athée dans un vestiaire de sport professionnel aujourd'hui. Enfin, c'est le cas dans le foot et même dans le rugby. Donc il y a cette acceptation, en tout cas, de la transcendance de l'homme et de la relation au divin. Et puis, pour terminer, dans l'élan qui va nous conduire jusqu'au JO, tout à l'heure, quelqu'un a évoqué la joie sportive. Et je pense que c'est très, très important que l'Église puisse se mobiliser. L'Église se réjouit avec ceux qui se réjouissent, elle pleure avec ceux qui pleurent. Il me semble que c'est formidable que l'Église puisse se mobiliser sur les JO, avec vraiment deux choses, un esprit très populaire qui va en plus convoquer l'histoire, parce que les Jeux Olympiques ont été quand même créés, les Jeux Olympiques modernes ont été relancés par Coubertin, bénis par le père Didon, ce Dominicain. J'ai vu que parmi les intervenants là, il y avait quelqu'un qui était à Argenteuil. Tout a commencé quand même à Argenteuil avec le père Didon et Coubertin. C'est quand même une rencontre entre deux personnalités assez inclassables, et un laïc et un religieux. Donc ça, c'est notre patrimoine. Et puis, moi, je retiens vraiment la dimension populaire. Il faut que l'Église soit extrêmement populaire et missionnaire dans les temps les temps d'Olympiade, parce qu'on, les temps d'Olympiade, c'est la période qui nous sépare de deux Jeux Olympiques. Et le compte à rebours est enclenché. Je pense qu'on a des choses merveilleuses à créer tous ensemble. Avec une dimension culturelle de soft power, avec une dimension historique, avec une dimension peut-être plus livresque ou académique, et puis très concrète autour de la visibilité de nos événements religieux qui font partie du patrimoine de la France, et puis je crois de plein d'événements sportifs qu'il va falloir qu'on organise dans les 3-4 ans avec la mobilisation de l'Église, de cette myriade d'associations que nous pouvons avoir. En tout cas, je suis très heureux de la rencontre qu'on est en train de vivre ensemble. Merci à tous.
Merci d'avoir mis au centre du monde la basilique Saint-Denis d'Argenteuil et la Sainte-Basilique. Ouais. Donc, si vous êtes amené à y passer, hein, donc Jean-Marie Turgis, Claude-Pierre et moi-même, hein, nous vous inviterons volontiers pour continuer à échanger sur tout ce qu'on a vu. Donc, je transmets la parole à Sœur Christiana et après Pascal Balmont pourra intervenir.
Bonjour à tous, j'interviens pour Christiana et moi. Donc moi, je m'appelle Paul Emmanuel, je travaille dans le monde du sport depuis pas mal d'années et je suis convaincu aussi de la dimension missionnaire et très concrète que le sport peut apporter aussi dans le monde séculier, et en fait, comment on peut faire découvrir la présence de Dieu à travers le sport. Et en fait, je profite de cette intervention et de la présence de chacun pour poser une question assez pragmatique et concrète. Comment est-ce que, en fait, à vos yeux, l'Église peut avoir une légitimité de se présenter à des événements sportifs concrètement? Comment est-ce qu'elle peut être légitime de se présenter au JO, de se présenter à une Coupe du Monde au Qatar? Sous quelle forme ça peut prendre concrètement? Et à vos yeux, ça peut être pour une question pour Santiago, comme pour chacun d'entre vous, dans les différentes expériences que vous avez pu avoir dans le monde du sport, ou ce sur quoi vous avez pu déjà réfléchir.
Alors, si Santiago est intéressé pour une réponse.
Non so se ho capito bene la domanda. Penso che si riferiva a delle azioni concrete sulla legittimità della Chiesa riguardo gli eventi sportivi come i giochi olimpici o il mondiale di Qatar, è così?
Giusto.
Ok, allora io direi che completando la risposta di prima, direi che da un lato la Chiesa molto spesso si manifesta non direttamente ma indirettamente attraverso degli organismi, no? Succede a volte per esempio con crisi dei rifugiati, delle migrazioni, sono attraverso la Caritas oppure organismi che appartengono a congregazioni religiose che hanno un ruolo molto forte in quella regione, eccetera. Lo stesso succede. Scusa.
Je vais essayer de traduire en résumant. Donc, dans la poursuite de ce qui a été dit juste avant, l'Église, dans un premier temps, est présente indirectement à travers des organismes comme la Caritas, etc.
Sì, e dunque, molte volte la Chiesa si manifesta attraverso questi organismi.
Très souvent, l'Église se manifeste à travers ces organismes.
Dunque, dal punto di vista della legittimità per i giochi olimpici, possiamo andare fino allo stesso Baron di Coubertin.
Alors, quant à la légitimité par rapport aux Jeux Olympiques, on peut se reporter à Pierre de Coubertin.
Perché lui stesso parla spesso sulla spiritualità dello sport.
Lui-même parle souvent de la spiritualité du sport.
Et il Comitato Olimpico Internazionale ci tiene anche alla cura spirituale degli atleti.
Le Comité Olympique International tient au suivi, aux soins au niveau religieux pour les sportifs.
Perché sono consapevoli che nel successo degli atleti c'è un fattore non solo fisico di allenamento, ma anche spirituale.
Ils sont conscients que dans la réussite des sportifs il y a aussi une dimension spirituelle qui joue.
E devo confessare che non è facile questa partecipazione della Chiesa agli eventi dei giochi olimpici.
Je dois avouer que c'est pas très facile d'organiser la présence de l'Église aux Jeux Olympiques, la participation.
E in questo momento, per esempio, posso dire che a Tokyo la presenza della Chiesa sarà molto limitata anche a motivo della pandemia.
Alors, à Tokyo, la présence de l'Église sera très limitée, en particulier à cause de la pandémie.
Però posso anche dire come la presenza della Chiesa ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro nel 2016 è stata molto, molto bella.
La presenza aux Jeux Olympiques de Rio a été par contre très, très belle, la presenza dell'Église.
Perché non solo sono riusciti a creare la cappella all'interno del villaggio olimpico e a poter partecipare nelle celebrazioni.
Donc non seulement ils ont pu créer une chapelle au sein des lieux olympiques et participer aux célébrations.
perché l'accesso al villaggio olimpico da sempre è una cosa molto molto speciale e limitata.
Parce que l'accès au village olympique est toujours compliqué et très limité, c'est assez spécial.
Et per non disturbare gli atleti.
Pour pas perturber les athlètes.
Ma al di là di questo hanno fatto tutto un percorso di evangelizzazione e di formazione lungo le favelas e i diversi quartieri della città di Rio de Janeiro.
Par contre, ils ont organisé tout un parcours spirituel auprès des favelas de Rio de Janeiro.
E attraverso lo sport e con l'aiuto dei comitati nazionali dove erano alloggiati.
À travers les comités olympiques où ils étaient, les lieux olympiques où ils étaient logés.
Et sono riusciti a dare delle risorse per poter praticare lo sport a persone che altrimenti non potrebbero farlo.
Donc ils ont réussi à pouvoir faire participer des gens qui autrement n'auraient pas pu le faire.
Intorno a questi a queste risorse, questi campo di calcio, di palacanestro che si occupava di mantenere e di organizzare questi eventi.
Donc à travers des terrains de foot, etc., des locaux comme ça, l'Église a pu organiser des événements.
E in quel modo era presente in mezzo alla gente che si faceva partecipi da un lato dei giochi olimpici e dall'altro riceveva un messaggio di fede.
Donc il y a eu présent des gens qui participaient aux Jeux Olympiques, donc des sportifs, et on a pu faire passer aussi un message de foi dans ces lieux-là. Voilà.
Quindi potremmo dire che questo dà anche una legittimità alla Chiesa.
Ça donne aussi une légitimité à l'Église.
Per dire la mia partecipazione non solo è buona ma anche necessaria.
E che c'è una partecipazione che non solamente è buona ma è necessaria.
Per quanto riguarda il Mondiale di Qatar, parliamo di una struttura molto diversa dove è un evento molto più politico e anche dal punto di vista finanziario, di marketing.
Alors pour le Mondial du Qatar, c'est une organisation totalement diverse, avec entre autres derrière des affaires de marketing.
Et quindi il lavoro della Chiesa è più limitato.
Le travail de l'Église est plus limité dans un cadre comme celui-là.
Et per questo spesso si cerca di non bruciare i ponti.
Et pour ça, on essaye de pas brûler les ponts.
E almeno dal punto di vista diplomatico ufficiale con questi organismi, ma di lavorare a livello di base.
Donc à travers la diplomazia, mais on essaye de travailler au niveau de la base.
Per cercare di migliorare la situazione di situazioni problematiche come quella dei lavoratori, no?
Pour essayer d'améliorer la situation problématique des travailleurs sur les chantiers.
E poi ovviamente, come dicevo prima, la Chiesa si manifesta tramite i canali ufficiali della diplomazia e anche tramite le organizzazioni che sono sul luogo, che hanno un ruolo anche di rilevanza, di legittimità per quello che fanno in quel paese.
E donc l'action se fait aussi diplomatique à travers le Vatican, mais aussi à travers les organisations catholiques dont on a parlé tout à l'heure. Voilà.
Sì. Non so se è chiaro
o completa la risposta.
Merci Santiago.
Ça dépend des événements sportifs et du contexte en fait.
Alors merci Santiago. Donc je pense qu'on peut retenir la question d'origine et la première réponse de Santiago. Je pense que ça pourra occuper nos réflexions futures. J'avais juste une remarque avant de transmettre la parole à Pascal Balmont et puis à Grégoire Cata qui ont levé la main. Peut-être mentionner effectivement la question de la place des aumôneries sportives dans les délégations proprement dites, hein, c'est-à-dire que c'est une première piste que je vous propose. C'est-à-dire que c'est pas tant les organisateurs qui pourraient être un frein, c'est peut-être aussi les organisations sportives elles-mêmes. Et nous avons des pays où des préparateurs mentaux et des aumôniers sportifs sont présents près des athlètes. mais on aura l'occasion d'en rediscuter. Puis peut-être mon côté militant, c'est aussi de s'intéresser au fait que d'un côté, on peut s'intéresser aux grandes compétitions internationales et aussi considérer que peut-être on a des questions à se poser sur quelle est la place d'une aumônerie sportive dans chaque diocèse. Et là, on aura l'occasion avec Pascal Girard peut-être de développer un peu ces notions-là, peut-être pas ce soir, mais dans d'autres occasions, à savoir que le sport, c'est effectivement les grands événements, mais c'est aussi tous les événements de la vie quotidienne où chaque diocèse va être quelque part concerné. En tout cas, merci pour votre question hein, qui ouvre des champs tout à fait intéressants. Vous vouliez revenir un peu? Vous aviez...
Oui, Sœur Christiana qui voulait revenir dessus.
Je ne sais pas si on a encore la possibilité de dire quelque chose. Juste, je voulais revenir sur ce que vous avez déjà bien dit. Donc, moi, je suis Sœur Christiana des Béatitudes, la communauté des Béatitudes. Et sous l'impact aussi social que vous avez bien souligné à tout à l'heure, du sport, parce qu'en fait, nous, on fait l'expérience à Nouan, mais je parle pour toute l'Église de France, je pense, de l'importance de l'Église d'être vraiment sous les terrains, comme dit le pape François, donc à Panama, il a parlé aux jeunes en disant de ne pas rester sous les fauteuils, donc dans leur confort, mais de sortir et chausser les crampons de foot, et vraiment d'aller vers les périphéries, aller vers les jeunes, aller vers ceux qui sont vraiment perdus. Donc moi, la question, c'est plutôt la question missionnaire que vous avez peut-être quelque part évoquée, mais qui, pour moi, c'est très importante aujourd'hui dans la société française, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qu'on voit dans les banlieues vraiment en détresse, et qu'ils attendent que des gens qui leur montrent ces valeurs dont vous parlez depuis tout à l'heure. Et je me dis, comment l'Église de France peut réagir aujourd'hui? Nous avons mis en place ces systèmes un peu avec Arnaud Boutéron aussi et Xavier, donc de faire l'expérience à des jeunes des banlieues sur un terrain de foot d'une façon différente de se confronter avec des valeurs plus grandes. Et on a vu vraiment les changements des jeunes qui ne connaissaient pas du tout et qui ne sont pas baptisés, des jeunes qui ne savaient rien de la foi, mais qui ont fait vraiment l'expérience de Dieu par l'amour et la fraternité des autres. Donc je me demandais comment l'Église de France peut réagir. Nous sommes en train aussi d'organiser des missions dans les banlieues, à travers toujours les sports, d'aller vers eux, juste en les rencontrant, comme des frères. Et je me demandais s'il y avait d'autres organisations ou si, comme Église de France, vous avez déjà réfléchi à vraiment aller vers eux à travers ces valeurs, mais surtout ces jeunes qui sont peut-être vraiment loin et qui ne sont pas forcément... Enfin, la société ne s'intéresse pas trop à eux. Mais l'Église, elle est, je crois, appelée, comme le dit le pape François très régulièrement. Et juste, je me permets un instant de remercier en italien Santiago. Grazie mille per il suo intervento, ma soprattutto per il documento della Chiesa, dare il meglio di se stessi, che stiamo utilizzando nella nostra equipe per lavorare per i giovani. Grazie mille, ci incoraggia molto vedere che la Chiesa ha formato un dicastero e continuate, noi preghiamo per voi.
Merci, merci beaucoup à vous, merci.
Merci. Alors, Sœur Christiana, je propose que peut-être on ne réponde pas ce soir à toutes les ouvertures que vous proposez, mais on les garde en mémoire. Alors, pour la transmission des paroles, donc, il y a Pascal Balmont qui est concerné. Monsieur Fonti, vous voulez intervenir ou?
Et on va arriver au bout.
Donc, Pascal Balmont.
Oui, tu as raison, Gilles. On va pas répondre à Sœur Christiana. En même temps, en vous écoutant, ma sœur, je me disais quand même que précisément le numéro de la revue Documents Épiscopat qu'on est en train de préparer et qui, si tout va bien, va sortir pour l'été. Bah, ce numéro, il donne quelques exemples, il illustre à travers un certain nombre d'expériences tout ce que vous nous dites. Je songeais par exemple, il y aura un petit témoignage sur tout un travail mené dans le diocèse de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, à travers le basket et le basket auprès des jeunes. Et moi, je suis profondément convaincu quand on dit « mais qu'est-ce que l'Église fait ?» Pardon d'enfoncer des portes ouvertes, mais l'Église, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Et c'est la multiplication de ce qu'on peut faire les uns et les autres là où on est. Et il y a beaucoup d'initiatives qui se prennent. Et c'est l'un des objectifs de notre groupe de travail, que d'encourager ces initiatives en les faisant connaître, en mutualisant un petit peu, de telle sorte que les idées des uns donnent des envies aux autres, et qu'ainsi on enrichisse mutuellement ce qu'on peut faire un peu partout. Bon, cela étant dit, si j'avais demandé la parole tout à l'heure, c'était, alors pardon pour le retour en arrière, c'était pour partager rapidement deux petites réactions aux précédents propos d'Arnaud Bouteillon. Une réaction d'accord total et une réaction de désaccord total. Comme ça, ça fait un match nul. Je suis totalement d'accord avec lui quand il exprime un certain... Je ne sais plus comment il a dit ça. Enfin, quand il a dit qu'il ne se retrouvait pas totalement dans tout un discours sur les valeurs. Moi non plus, les valeurs, ça ne me parle qu'à moitié. Je crois beaucoup plus aux vertus ou à l'expérience. La fraternité, par exemple, pour moi, c'est une vertu, c'est une expérience, c'est pas une valeur. Enfin, je crois que nous, chrétiens, on a intérêt à parler le langage du monde, mais à le parler aussi avec nos mots à nous et avec notre anthropologie à nous, avec notre foi. Bon. Là-dessus, je suis complètement d'accord. Là où je suis en complet désaccord avec Arnaud, c'est dans l'opposition, j'en rajoute un peu pour mettre de l'ambiance, c'est dans l'opposition qu'il installe entre le vrai sport, je crois qu'il a utilisé cette expression, hein, et puis il a dit le sport sur canapé. Je ne suis pas du tout d'accord, je suis convaincu que le sport moderne, dès le début, a associé le sport, enfin, a associé dans un même tout la pratique du sport sur le terrain, et puis le spectacle du sport et la joie du sport comme expérience de spectacle. Quand on parle de littérature, il y a des gens qui écrivent et puis il y a des gens qui lisent. Quand on parle d'opéra, il y a des gens qui chantent et il y a des gens qui écoutent. Moi, je chante malheureusement sous ma douche ce matin, mais heureusement, ça se limite plus à la messe, mais ça se limite à ça. Et pourtant, l'opéra, ça me parle. Pareil pour la littérature, pareil pour la poésie. J'ai fait beaucoup de sport, j'en fais plus du tout. Mais je regarde encore le sport et ça fait partie de ma vie. Je crois qu'il y a une certaine forme de purisme du sport pratique par opposition au sport canapé qui peut-être nous fait manquer un peu précisément. Arnaud parlait de la joie du sport. Et pour moi, la joie du sport, elle est aussi dans le sport canapé.
Merci Pascal. Alors Grégoire Cata avait levé la main il y a quelque temps. Je ne le vois plus sur mon...
Juste une précision, non, en fait, je n'opposais pas hein, les deux, hein. J'évoquais juste les différentes facettes. Je suis un cabri sur mon canapé aussi. Hein.
D'accord.
oui, c'est bien. Quand j'ai levé la main, mais en fait, Santiago en a parlé, voilà, c'était la dimension de ce qu'a fait l'Église au JO à Rio. De toutes ces opérations dans les favelas en même temps que les JO pour associer des grands athlètes, des grands sportifs sur cette dimension de qui est aussi la mission de l'Église, qui est de manifester la tendresse du Père voilà, auprès des exclus et des populations défavorisées. Et au moment des événements sportifs, c'est aussi une manière dont l'Église peut être présente, quoi. Donc, voilà.
Voilà, merci pour ces précisions. Je regarde l'heure, alors je propose à Alain Paillard d'être un peu l'horloger hein, de la réunion pour savoir à quelle heure
on arrive au bout. Je crois qu'on arrive
au bout. Donc peut-être s'il y avait encore une remarque, comme je dis, intuitive et intelligente, hein, nous sommes preneurs. Donc sans vous,
et puis suite à notre rencontre, quoi.
Voilà. Donc effectivement, peut-être de s'ouvrir vers des perspectives. Donc peut-être je vais vous poser 2-3 points et puis après je redonnerai la parole à Mgr Blacard pour
ça va, je vous laisse
siffler, hein. Siffler la fin du match, ça va siffler la fin du match et puis nous inviter à la troisième mi-temps. Alors effectivement en termes de perspective, alors il y a Pascal Girard qui fait partie du groupe des quatre, hein, comme Alain Paillard l'a précisé, qui en même temps s'occupe de la partie communication. Hein, de ce pour l'Église des sports au niveau de la CEF. Et donc, je pense que comme il a les contacts des personnes qui ont assisté ce soir à ces échanges, il reviendra sûrement auprès de vous pour vous en dire plus un peu sur les suites hein, qui seront données. Alors, en sachant qu'on a aussi un objectif au niveau de la CEF, c'est voilà, de développer un aspect communication qui soit à la fois national et international. Et puis un autre rendez-vous qu'on vous propose, donc c'est le 23 juin, Le 23 juin, ce n'est pas une date par hasard. C'est une date qui concerne ce qu'on appelle la journée olympique, hein, qui est organisée par le Comité international olympique, hein, dans tous les pays du monde. Et donc, on s'est donné comme objectif de présenter, hein, le document épiscopal qui parlera du thème Église et sport. Donc, même s'il n'est pas publié officiellement, hein, ça sera l'occasion, pendant cette journée olympique, voilà, de permettre à l'Église de France de se positionner, hein, sur différents aspects, bah, qui ont été abordés ce soir. Et voilà, donc noter la date du 23 juin. Il va se passer encore plein de choses d'ici là. Mais voilà, c'est en tout cas le prochain rendez-vous où on fera sûrement une réunion en présentiel, point d'interrogation, et puis en hybride, en distanciel, puisque c'est aussi une formule que la crise sanitaire nous a appris à développer. Donc ceux qui sont provinciaux et qui pourront pas venir, on verra comment on peut les inviter. Voilà un petit peu quelques points. Alors je sais pas si Pascal Balmont a...
Alors Pascal Girard voudrait juste préciser.
Voilà. Donc voilà Pascal Girard sur. Voilà. Donc comme je l'ai nommé, hein, le voilà en vrai.
Donc au niveau communication, et ça peut répondre aussi aux questions de l'équipe Foot for Jésus, nous avons le site internet églisesport.fr où vous avez une mine d'informations, et ça fait partie aussi de l'aspect de valorisation des initiatives. Et donc important aussi de pouvoir me faire remonter, ou faire remonter à ceux que vous connaissez, toutes les initiatives qui se font pour qu'on puisse les faire connaître et partager ainsi les expériences.
Voilà, mais si je peux me permettre de rajouter le principe que Pascal Girard a pu développer, grâce à son évêque, un service de pastorat du sport dans le diocèse de Clermont-Ferrand, et que je partage avec lui, alors je ne sais pas s'il est d'accord avec moi, le rêve que finalement, ce qui peut se faire du côté de Clermont-Ferrand peut se faire bien évidemment dans chaque diocèse.
Alors, ça commence à bouger dans un certain nombre de diocèses, à Metz et ailleurs, donc je pense que ça risque de se développer. Je voulais remercier beaucoup Michel Dubos pour le travail qu'il a fait. Je trouve que c'est important aussi qu'on prenne du recul de temps en temps sur des questions un peu fondamentales. Donc, la journée du 6 avril, hein, le sport au service donc de la paix et du développement nous était proposé par l'ONU, elle l'est chaque année. Je crois que ça vaut le coup d'approfondir ces questions-là assez sérieusement. Ça nous permet de décoller un peu le nez du guidon, et je pense que c'est utile. Et puis ça permet aussi d'arriver d'horizons différents, de spiritualités différentes, d'âges différents, de générations différentes. On n'a pas parlé par exemple des patronages, mais c'est important. Etc. Que tout ça, ça nous permette de nous confronter aussi les uns les autres, aux autres, mais après avoir entendu une parole qui nous donne à réfléchir. Alors, on continuera de le faire de temps en temps, des webinaires de ce genre-là. Il était un peu question de faire quelque chose à partir de la question de l'interreligieux. On va voir comment on va monnayer tout ça. Hein. Voilà. En tout cas, un grand merci à Michel pour son intervention. Voilà, merci à Santiago pour la présentation du travail du Dicaster. Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter, Jacques, peut-être?
Moi, je terminerai juste par un petit bout de prière pour finir, mais pas François, voilà. Vous êtes d'accord? Bien, on y va. Donc, c'est bien parce qu'on a parlé, de fait, on voit bien que le sport, ça fait partie, on a bien redit, l'homme global. Hein. Voilà, nous ne sommes pas qu'un corps, mais nous sommes vraiment un corps. Voilà, donc je cite simplement un petit bout de la prière du pape François dans Laudato aussi. Voilà, prière pour notre terre. Et ça rejoint, enfin, voilà, vous allez voir. Ô Dieu, un et trine, apprends-nous à te contempler dans la beauté de l'univers où tout nous parle de toi. Éveille notre louange et notre gratitude pour chaque être que tu as créé. Donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe. Dieu d'amour, montre-nous notre place dans ce monde comme instrument de ton affection pour tous les êtres de cette terre, parce qu'aucun n'est oublié de toi. Illumine les détenteurs du pouvoir et de l'argent pour qu'ils se gardent du péché de l'indifférence, qu'ils aiment le bien commun, promeuvent les faibles et prennent soin de ce monde que nous habitons. Les pauvres et la terre implorent. Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta lumière pour protéger toute vie, pour préparer un avenir meilleur,